Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, si vous vous réveillez, il est 7h.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Et à 7h, on retrouve Clotilde Dumais pour le journal. Bonjour Clotilde.
Bonjour Léna Aigmonier, bonjour à tous. Dieu, patrie, famille, ce sera peut-être bientôt la devise de l'Italie. C'est en tout cas celle de Giorgia Meloni. Avec son parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, elle est donnée favorite des élections législatives qui débutent ce matin.
En France, on attend la présentation du budget 2023 et du projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables. On verra d'ailleurs comment le deuxième peut influencer le premier.
Et puis dernier test avant le mondial pour les Bleus. Ils affrontent le Danemark ce soir en Ligue des Nations.
Restez bien avec nous si vous êtes fan de Mylène Farmer. Dans la prochaine demi-heure, Mathieu Alterman vous dira tout ce que vous ne savez pas sur la chanteuse. On parlera aussi d'un très célèbre tube, mais lequel, de Stéphanie de Monaco avec Fabrice Lafitte. Mais avant cela, la météo, Valérie Darmon, une tendance?
Oui, moins d'averses et de pluie qu'hier. Retour d'un soleil généreux sur les régions méditerranéennes, un petit peu moins en Corse.
Et on regarde le ciel des régions à la fin du journal. Elle pourrait donc devenir la première femme à diriger l'Italie. C'est Giorgia Meloni qui est aux portes du pouvoir.
Son parti Fratelli d'Italia était en tête dans les derniers sondages alors que les bureaux de vote ouvrent à l'instant en Italie. Avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi, la coalition des droites pourrait donc permettre à Giorgia Meloni de devenir première ministre. Alors comment les Italiens perçoivent-ils celle qu'on présente comme une admiratrice de Mussolini? Reportage de notre envoyé spécial Frédéric Michel.
Laura est réceptionniste dans un hôtel du centre de Rome. Cet après-midi, en sortant du travail, elle ira voter et son bulletin, elle le réserve à Giorgia Meloni.
Non, ici c'est perçu comme droite avec des règles bien précises, mais pas extrêmes. Moi, j'espère vraiment un changement.
Gaïa, 40 ans, est employée dans une entreprise privée de Rome et ne voit pas d'un bon œil l'arrivée au pouvoir de celle qui fut la plus jeune députée et ministre d'Italie sous Berlusconi.
Non, non, una buona immagine.
Je n'ai pas une bonne image d'elle, mais je sais que dans le pays, elle a beaucoup de succès. Elle me fait un peu peur. Le pouvoir de droite me fait toujours peur quand il devient extrême. Et c'est l'impression qu'elle me donne.
Cette jeune Italienne n'ira pas voter et ne semble pas inquiète de la percée du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia.
Cette idéologie, ça ne me plaît pas trop parce que je suis un peu moderne. Je la vois un peu comme une opposition, par exemple. Un peu comme Marine Le Pen chez vous.
Comme en France, beaucoup d'Italiens se détournent de la politique. L'abstention pourrait être forte ce dimanche. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit. Rome, Antonino Gallofaro, Frédéric Michel, Europe 1.
En France, le gouvernement, lui, se concentre sur son budget 2023.
Il sera présenté demain en Conseil des ministres. Dans le journal du dimanche, Gabriel Attal précise que le seuil des 3 000 milliards d'euros de dette sera franchi dans les prochaines semaines et qu'elle coûtera presque 52 milliards en 2023. Le ministre délégué aux comptes publics qui n'exclut pas le recours au 49.3 pour faire adopter ce budget.
Et puis un autre projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables doit aussi être présenté demain en Conseil des ministres.
Les énergies renouvelables qui pourraient justement alléger le budget ou du moins, Baptiste Morin, financer une partie du bouclier tarifaire.
Oui, le bouclier tarifaire en 2023 coûtera 45 milliards d'euros, mais l'État va pouvoir alléger la facture de 29 milliards, et ce, grâce aux énergies renouvelables. C'est en grande partie le fruit d'un mécanisme de compensation. Longtemps, l'État a subventionné les énergies renouvelables. Au début, l'énergie solaire ou éolienne coûtait plus cher à produire qu'à vendre. L'État mettait donc la main à la poche pour soutenir cette filière. Avec l'envolée des prix notamment, l'énergie solaire ou éolienne se vend bien plus cher qu'elle ne coûte à produire. Produire désormais, l'État récupère donc une partie de son investissement, quelques 20 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 9 milliards d'euros de CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Normalement, l'État la verse chaque année en soutien, là aussi, aux énergies renouvelables. Mais cette année, eh bien, elles n'en ont pas besoin. Et voilà comment la note du bouclier tarifaire se réduit à 16 milliards d'euros.
Les précisions de Baptiste Morin.
Et des énergies renouvelables, on passe à un mode de transport totalement non polluant, c'est la voile.
Oui, puisque la route du Rhum démarre dans 6 semaines exactement. Et avant de prendre le large, le navigateur François Gabart fait le tour des écoles. Objectif, sensibiliser les enfants à la protection des océans et inaugurer une plateforme numérique pour travailler toute l'année sur cette thématique. À Puteaux, près de Paris, une classe de CE1 a rencontré le skipper. Reportage de Louise Salé.
À quel âge vous avez conduit votre premier bateau?
tout seul.
Sur les murs de la classe de ses enfants captivés par leur invité, des cartes de la route du Rhum, une fresque d'algues et de poissons et des maquettes de bateaux. Aujourd'hui, ils ne perdent pas un mot de ce que leur confie François Gabart.
Je crois que c'est exactement votre âge.
Tout seul,
un optimiste, un petit bateau.
Puis les élèves sortent de leur cartable des objets en plastique.
Qu'est-ce que t'as apporté comme objet, toi ?
Une bouteille. Le plastique, c'est horrible pour les océans. Si on n'a pas d'océan en bonne santé, eh ben on ne peut pas avoir de planète en bonne santé.
D'autres leçons suivront dans l'année sans François Gabart, dont l'aventure inspire la maîtresse Julia Mallet.
Ce projet, on peut l'utiliser dans toutes les matières, à la fois pendant les dictées. On parle des océans, de la voile. Et puis en mathématiques, on fait des petits problèmes. Et on voit vraiment que les enfants sont beaucoup plus attentifs.
Les CE1 ont aussi accès à une plateforme interactive avec des vidéos du navigateur qui est reparti avec des dessins pour décorer son trimaran.
Le reportage de Louis Salé.
Et François Gabart qu'on retrouvera dans la matinale de Dimitri à Pavlenko pendant toute la durée de la route du Rhum, course dont on parle évidemment d'ici quelques instants avec le tenant du titre Francis Joyon qui est mon invité juste après ce journal. En football, l'équipe de France, elle veut continuer sur sa lancée, Clotilde.
Elle affronte le Danemark ce soir en Ligue des Nations. Objectif, une nouvelle victoire après le 2-0 infligé jeudi à l'Autriche pour rester dans l'élite de ce championnat et puis pour gagner en confiance d'après le sélectionneur Didier Deschamps pour ce dernier match avant le Mondial au Qatar.
J'en ai là pour la recherche de la performance. Et à partir du moment où si on obtient la performance, ben l'objectif sera atteint. Évidemment, après, ça servira comme tous les matchs servent. Mais on va commencer le match pour faire les choses bien et obtenir le résultat qu'on veut. Maintenant, on a en face de nous une équipe danoise qui, elle aussi, joue une place en finale. Et c'est pour aller au Final Four, donc l'objectif à court terme est celui-là.
Le Danemark face à la France, ce sera à partir de 20h45 à suivre en direct dans Europe 1 Sport. Et puis toujours en Ligue des Nations, la Suisse a surpris l'Espagne hier de 1-0. Elle tentera de se qualifier pour le carré final contre le Portugal. Ce sera mardi soir. Un mot de cyclisme, on va savoir dans quelques instants si Julian Alaphilippe va pouvoir décrocher un troisième titre de champion du monde en Australie. Ce sera quand même sans doute compliqué pour le Français qui a été blessé à plusieurs reprises cette saison. Il est actuellement dans le peloton à peu près 70 km de la ligne d'arrivée.
Oui, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on regarde la course en ce moment, même à la télévision avec Clotilde et toute l'équipe. Merci Clotilde, à tout à l'heure. Valérie, on regarde le ciel de nos régions, alors pas en Australie, mais plutôt chez nous en France.
Effectivement, et je commence par le ciel de la Bretagne et Hauts-de-France, avec des éclaircies qui s'imposent ce matin, malgré quelques averses, sur la côte d'Opale, jusque sur le pays de Caux, ainsi que sur le centre du Calvados. Sinon, ce sera plutôt très ensoleillé aujourd'hui sur la Bretagne et le pays nantais, donc des pays de la Loire, et oui, bassin parisien, aux Ardennes. Après un début de matinée un petit peu hésitant, là vous profitez aussi d'une assez belle journée. Des Charentes au Grand Est, en passant par le centre Val-de-Loire, le ciel qui est souvent couvert avec quelques pluies éparses liées à une toute petite perturbation. Et puis le risque de pluie qui disparaît progressivement cet après-midi aussi. Dans le sud-ouest du bassin aquitain aux Pyrénées, après une matinée instable, vous retrouvez quelques éclaircies, sauf sur le piémont pyrénéen où l'ambiance reste humide et un petit peu maussade avec quelques pluies sur le Pays basque. Et puis du Grand Est à Auvergne, à Rhône-Alpes, à la Bourgogne, au Jura. Là, les averses sont plus fréquentes tout au long de la journée avec de la neige sur le nord des Alpes au-dessus de 2200 mètres. Et puis des températures un petit peu faiblardes, entre 17 et 20 degrés cet après-midi. Et puis grand soleil sur les régions méditerranéennes, grâce un petit peu au Mistral et à la Tramontane qui souffle à 60 km/h en rafale cet après-midi.